Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie pour le 265e numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Je vous l'ai déjà annoncé la semaine dernière, nous soufflons un peu en cette mi-mars, après la folle période que nous avons connue il y a deux semaines. L'agenda musical reste cependant assez bien rempli, mais dans des proportions plus raisonnables tout de même. Et pour revenir sur les concerts passés et vous présenter les prochains, je suis heureux de pouvoir compter une nouvelle fois sur l'érudition de Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et pour le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous avons le plaisir de recevoir un habitué de Mélomanie, Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur artistique des Passions de Montauban. Les Passions sont en concert samedi à 18h30 à l'église Saint-Exupère de Toulouse, avec un programme que Jean-Marc va nous présenter en seconde partie de ce numéro. Dans l'immédiat, nous allons revenir sur l'actualité musicale récente avec Serge Chauzy. C'est parti pour un très copieux retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à tous les deux. Merci d'être fidèles au rendez-vous de Mélomanie. Il y a donc de nombreux concerts sur lesquels il fallait que nous revenions dans cette émission. Et nous allons commencer avec celui qu'ont donné le mercredi 6 mars. L'Orchestre National du Capitole et le pianiste Alexandre Tarot à la Halle aux Grains sous la direction du chef italien Fabio Biondi. Cette soirée était entièrement dédiée à Mozart, Serge, et intitulée « Le Béaba de Mozart ».
Et puis intitulée également « Mozart jeune homme ». Mais enfin, Mozart a toujours été jeune homme. Hein. Bon, on n'imagine pas Mozart vieillard. Hein. Donc là, il y avait, oui, effectivement, un concert. Alors, comme les concerts d'antan, avec une ouverture, un concerto, et non pas une, mais des symphonies en deuxième partie. Effectivement, il y avait, pour diriger l'orchestre, en formation Mozart, évidemment, Fabio Biondi, qui est un grand violoniste, avant tout, je dirais même, hein, et qui a pris la baguette à la suite, un peu plus tard. Il s'agissait donc d'œuvres exclusivement de Mozart, mais composées avant l'âge de 21 ans. Et donc, le concert s'ouvrait, comme il se doit, sur une ouverture, l'ouverture de son opéra de jeunesse, Lucio Silla, qui a vraiment une tonalité très italienne. Hein. On a l'impression vraiment de musique italienne. Et là, Fabio Biondi a dirigé l'orchestre avec beaucoup de vivacité, comme s'il y avait une lumière qui sortait de cet orchestre. Ensuite, Alexandre Tarot, le grand pianiste, est arrivé pour jouer en soliste le concerto pour piano orchestre numéro 9, dit « Jeune homme ». Alors, il faut quand même préciser que « Jeune homme », c'est un nom un peu particulier, puisque à l'origine, c'était un concerto que Mozart voulait dédier à une certaine Victoire Jeune Amie, et donc pas du tout jeune homme. Et bon, le nom a été transformé au cours des années, donc en « Jeune homme ». Et donc, c'est un concerto très vif, très beau, avec la belle sonorité d'Alexandre Tarot, c'est-à-dire dès l'entrée, avec une ampleur orchestrale intéressante. Alors, un peu curieusement, le soliste semble prendre une certaine distance avec la légèreté du style galant. Il ne le joue pas dans le style galant, il le joue sérieux, mais c'est très beau, hein, avec en particulier dans l'Andantino, le mouvement lent, avec comme si une ombre planait jusqu'à la manifestation d'une certaine douleur. Donc c'était vraiment une très belle interprétation et qui a eu beaucoup de succès. Et donc il est revenu pour jouer un bis très particulier. Alors pour le coup, je lui ai demandé d'où ça venait, effectivement. Alors on a tous reconnu du Bach, du Jean-Sébastien. Il a joué sa propre transcription de la Sicilienne d'une sonate pour flûte et clavecin, sonate BWV 1031, attribuée à Bach, mais certaines études, certains musicologues ont dit qu'elle était probablement écrite en partie au moins par Carl-Philippe Emmanuel, son fils. Donc on ne sait pas. Mais en tout cas, il a joué cette transcription de cette Sicilienne. C'était très très beau.
Alexandre Tarot qui fait beaucoup de transcriptions et qui compose même, mais qui pour l'instant n'a jamais voulu jouer en public ses propres compositions. Ah bon. Je lui avais posé la question, il dit ça viendra peut-être, mais pour l'instant,
et voilà.
Il faudra attendre.
Et donc toute la seconde partie de la soirée, elle est consacrée à un trio des symphonies de jeunesse. dans lesquels, alors là aussi on ne s'y attendait pas, eh ben Fabio Biondi reprend son violon, il dirige l'orchestre depuis son archet, et donc il est le concertmaster en quelque sorte de l'orchestre, et même au cours de certaines de ses symphonies, il va solliciter les autres chefs de pupitre pour l'accompagner, comme s'il s'agissait d'une symphonie concertante. C'était vraiment très astucieux, très intelligemment fait, très bien fait, avec la première, c'était la symphonie numéro 11, qu'il a écrite à l'âge de 14 ans, avec de la joie, de la bonne humeur, et puis quelques duos donc, entre les deux premiers violons. Et puis ensuite, le compositeur a 18 ans lorsqu'il compose la 30e, alors qu'il réclame là un pupitre supplémentaire de deux trompettes, c'est nettement plus solennel et énergique. Et puis enfin, la troisième de ses symphonies, c'était la symphonie numéro 13, en fa majeur, qui elle a été composée alors qu'il avait 15 ans, avec... très bizarrement, un allegro initial presque dramatique, et puis un andante et un menuetto vraiment très dansant. Et on voit le retour des quatre cordes solistes, là, les deux violons, un alto et un violoncelle, qui, avec Fabio Biondi, bon, eh ben, joue les concertos, en quelque sorte, au milieu de cette symphonie. Donc, un beau concert, très léger, très amusant, très, très bien fait, très bien construit.
Voici un petit extrait du concerto numéro 9, Jeune homme de Mozart, dans une version avec Alexandre Tarot au piano. Il joue ici le troisième mouvement, le rondo. Le troisième mouvement, le rondo du concerto pour piano numéro 9, Jeune homme de Mozart, joué par l'éternel adolescent Alexandre Tarot. Le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains est programmé le jeudi 28 mars à 20h. Le lendemain, et toujours à la Halle aux Grains, un autre pianiste français était à l'affiche, un quasi-enfant du pays, en l'occurrence le tarbet David Frey, qui se produisait en duo avec le célèbre violoniste Renaud Capuçon, qu'on ne présente plus guère et qu'on a l'occasion d'entendre chaque année à Toulouse et dans les festivals de notre région. Ce concert donné le 7 mars était présenté par le cycle des grands interprètes et Serge va nous en rappeler le programme qui était très première école de Vienne.
Ah oui, bah oui, c'est un programme Schubert-Beethoven avec d'abord deux sonates de Schubert et la plus grande des sonates pour violon et piano de Beethoven, la sonate à Kreutzer. Donc, en première partie, c'était Schubert. Et là, on retrouve ces deux complices qui se connaissent depuis longtemps, qui jouent très souvent ensemble. Donc on sent qu'ils prennent du plaisir à échanger.
Ils sont amis dans la vie.
À échanger entre eux. Donc c'était vraiment très beau, un très beau duo en quelque sorte. Alors la première de ces sonates de Schubert, c'était la sonate en La majeur qu'il a écrite en 1817 et qui n'a été publiée qu'après sa mort. Ces deux sonates sont très différentes, les deux sonates qu'ils ont jouées. Celle-ci, la première, donc, a acquis en quelque sorte, au fil des ans, on ne sait pas si c'est de Schubert, le titre de grand duo. Parce qu'il y a aussi un grand duo pour piano à quatre mains, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est vraiment une sonate magnifique, avec en sous-main en quelque sorte le lead. Schubert, on retrouve un lead partout, et là c'est le cas dès l'Allegro moderato, avec un andantino pareil, avec une certaine tendresse, on a l'impression d'un lead extrait de La Belle Meunière par exemple. Et puis un final avec beaucoup d'esprit, de finesse, vraiment une première sonate magnifique. La deuxième sonate est très différente. C'est le Rondo brillant en si mineur qui vraiment possède un tout autre caractère. Les deux parties, il y a deux parties simplement dans ce rondo qui s'enchaînent. Ils sont, c'est clair, destinés à exalter la virtuosité des interprètes. C'est une sorte de défi qu'il lance aux interprètes. Et là, il avait deux interprètes qui étaient tout à fait à la hauteur puisque les deux musiciens franchissent vraiment avec panache la difficulté de ces deux mouvements de ce rondo. Toute la seconde partie de soirée, elle est consacrée à l'une des sonates pour violon et piano les plus révolutionnaires, on peut dire, du répertoire, puisque c'est la sonate numéro 8 en La majeur et qui est intitulée Sonata Kreutzer, du nom du dédicataire, qui d'ailleurs ne l'a jamais jouée, puisqu'il l'a trouvée, il n'a pas compris. Il a dit c'est vraiment plus que révolutionnaire, c'est incompréhensible. Inintelligible, il a même écrit, le dit Kreutzer. Donc, cette sonate, il faut se souvenir qu'elle est contemporaine de la troisième symphonie héroïque de Beethoven. Donc, c'est au passage, en quelque sorte, du style beethovenien. Là, les deux musiciens se sont donnés à fond, les deux interprètes, avec cet adagio sostenuto introductif un peu fébrile, puis un presto qui ressemble à un combat entre les deux. Mais je voudrais surtout insister sur l'andante con variazioni, qui constitue à lui seul vraiment un chef-d'œuvre absolu. Et là, les deux musiciens s'y sont investis au point que l'émotion a atteint un paroxysme. Ça a été le moment de tout le concert, le grand moment de cette soirée. Donc là, une merveille. Et puis enfin, le presto final, donc plein d'exubérance, comme une libération sur un rythme de tarentelle, d'ailleurs, rythme de danse. Encore une fois. Et puis alors là, le grand succès qu'ils ont eu, elle les a ramenés même pour deux bis, pas un seul mais deux. Il y a eu d'abord le fameux salut d'amour d'Edouard Elgar, ça qu'on entend très souvent comme bis d'ailleurs. Et puis la mélodie après un rêve de Gabriel Fauré. Évidemment.
Ils étaient sûrs d'emporter l'adhésion du public avec ces deux bis.
Non, mais ça se justifiait tout à fait. Gabriel Fauré, on le redira encore, dont on célèbre le centenaire de la disparition. Donc voilà, c'était poésie et musique au cours de cette soirée, une très belle soirée là aussi.
Alors le lendemain, et même le surlendemain, puisque nous allons parler maintenant du double concert donné par la Schola Cantorum, les 8 et 9 mars à Saint-Cernin, Serge, vous étiez de nouveau sur le pont pour assister au Requiem de Maurice Duruflet, accompagné à l'orgue par Michel Bouvard, le titulaire du magnifique cavaillé-colle de la Basilique. Nous avions annoncé et présenté ces concerts avec Jean Percy, le fondateur et directeur artistique de la Schola Cantorum, et Michel Bouvard lui-même lors de notre émission du 5 mars. Ils étaient évidemment très attendus, ces deux concerts, parce qu'on n'entend pas le Requiem de Duruflet tous les jours, ni même tous les ans d'ailleurs. Est-ce que ça a été le grand moment espéré ?
Oui, oui, ça a été un très beau moment. Alors, évidemment, la version qu'ils ont choisie, puisqu'il y a plusieurs versions de ce Requiem, deux versions avec orchestre, d'ailleurs, une avec grand orchestre, une autre avec l'orchestre plus réduit. Et entre les deux, il y a la version avec orgue. Et donc, c'est celle qui a été choisie, évidemment, pour les deux concerts qu'ils ont donnés, puisqu'ils ont joué ça le 8 et le 9. Et là, Jean Percy a insisté, en présentant le concert, que l'influence du chant grégorien était très importante pour Duruflet. Et donc, du coup, avant d'entendre le Requiem, on a entendu un Requiem grégorien, des extraits d'un Requiem, comme certains le qualifient, le chant des siècles, chanté sur le souffle par le chœur grégorien de la Schola Cantorum, puisque la Schola Cantorum, c'est quatre chœurs. Et donc là, il s'agissait donc du chœur grégorien, qui était dirigé par Clarisse Chantelot, avec ce chant a cappella à l'unisson, un peu hypnotique. C'était une excellente idée de faire précéder le Requiem de Duruflet de ce Requiem grégorien.
Duruflet lui-même, grand fan de grégorien.
Ah ben oui, exactement. Et donc ensuite, c'est le grand chœur de la Schola Cantorum, dirigé par Jean Persis cette fois, qui a exécuté le Requiem de Duruflé. Alors, une œuvre magnifique, hein, évidemment, accompagnée, si l'on peut dire, soutenue par le Cavalier Coll joué par Michel Bouvard. À deux reprises, d'ailleurs, au cours de ce requiem, d'une part entre le Domine Jesu et le Sanctus, le grand chœur était rejoint par l'atelier vocal de la maîtrise de la basilique, puisque le Schola Cantorum a aussi une maîtrise. Et donc, à deux reprises, on a entendu, on a vu arriver des jeunes filles, toutes jeunes, donc de cette maîtrise, qui ont apporté leur contribution à certains extraits, certains passages de ce requiem, avec, par moments, hein, une espèce de puissance expressive, mais impressionnante, un paroxysme entre l'orgue et le chœur, vraiment qu'on n'entend pas dans le Requiem de Forêt, par exemple. Hein. Donc c'est très différent. Et donc un très beau moment, avec dans le Pie Jesu, comme dans le Requiem de Forêt, encore une fois, une chanteuse soliste. Ici, il s'agissait de la mezzo-soprano Flora Kerouaz, donc qui chantait du haut de la tribune de l'orgue, avec un chant très sensible et intense, donc un très beau moment là aussi. L'accueil là aussi a été particulièrement chaleureux et on a entendu comme bis une chose tout à fait étonnante que nous a présenté Jean Persis. Il s'agissait de la dernière œuvre écrite par Maurice Duruflé, un autre père, à la fois recueilli et émouvant. Bon, une conclusion vraiment en pointillé, hein, très, très touchante. C'était vraiment intéressant là aussi d'entendre cette dernière œuvre de Duruflé.
Voilà, deux magnifiques concerts, Serge, à assister. C'était lequel ? Le premier ou le deuxième ? Le
premier,
second.
J'étais là au deuxième, excusez-moi.
J'étais là au second concert, donc celui du 9 mars. Alors, je ne peux c'est pas ça. Vous faire écouter, malheureusement, le Requiem de Maurice Duruflé dans la version de la Schola Cantorum avec Michel Bouvard, puisqu'il n'en existe pas d'enregistrement disponible à ce jour, mais ça viendra peut-être. Je crois qu'il y a une captation pendant le concert, donc peut-être qu'il y aura un disque derrière. En revanche, je peux vous faire écouter un extrait du CD Forêt, enregistré par la Schola, avec Emmanuel Pellat cette fois-ci à l'orgue. Voici leur version du Liberame, extrait du Requiem de Gabriel Fauré.
Oh.
le poignant Liberame du Requiem de Gabriel Fauré dans la version enregistrée par la Schola Cantorum sous la direction de Jean Percy et avec Emmanuel Pellapra à l'orgue. Notez que le prochain concert de la Schola Cantorum est prévu le samedi 20 avril à 20h à la Chapelle des Carmélites avec notamment le Via Crucis de Franz Liszt au programme. Et un autre concert a eu lieu à Saint-Sernin le mardi 12 mars, celui donné par les Sacboutiers et l'ensemble Clément Jeannequin dans le cadre de la saison des Arts Renaissants, dont nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui le directeur artistique, puisque c'est Jean-Marc Andrieux. Deux formations amies, les Sacboutiers et l'ensemble Clément Jeannequin, qui collaborent depuis longtemps, Serge, oui. Et qui nous ont proposé un programme intitulé « L'homme armé, larmes et alarmes, Pierre Delarue ». Vous allez nous expliquer un peu ce qui se cache derrière ce titre assez énigmatique. On y était tous les deux, et même tous les trois, parce que Jean-Marc était présent, dans une basilique archi-comble.
Ah oui, absolument. Et donc, d'abord, il faut préciser que des liens étroits, aussi bien amicaux que musicaux, hein, se sont tissés au cours des ans entre les musiciens et les chanteurs. Oh, écoutez, l'ensemble Les Sacboutiers a été créé en 1976 et l'ensemble Clément Jeannequin en 78. Donc, ils ont 2 ans d'écart. Donc, et dès le début, ils se sont connus et appréciés. Et donc là, en l'occurrence, le programme de ce concert, particulièrement original et imaginatif, puisqu'il est composé de 2 messes, une qui s'appelle Missa pro defunctis requiem et une messe des batailles. Mais il ne s'agit pas d'œuvre d'un compositeur. En fait, le programme s'articule autour de la figure de Pierre Delarue, mais il n'y a pas que des œuvres de Pierre Delarue, puisqu'il s'agit de 2 messes dites parodiques. La parodie se pratiquait beaucoup à l'époque et qui réunit au sein d'une même œuvre des pièces de compositeurs divers. Et donc, on a d'abord eu la Missa pro defunctis, donc requiem, alors qui s'ouvre sur un introïde, qui s'achève par la communion, avec une succession de pièces, une majorité signée Pierre Delarue, mais d'autres de compositeurs que, pour ma part, j'avoue, j'ignorais. Jean-Henri Chaffort, je ne connaissais pas. Antoine Févin non plus, j'avoue mon ignorance.
Il faut resituer les choses, on parle de compositeurs de la Renaissance. Hein.
Oui, tous.
On est
oui.
À la charnière 15e, 16e siècle, début du 16e. Alors évidemment, il y a beaucoup de compositeurs que, à part les spécialistes, peu de gens connaissent.
Oui, exactement. Et alors, le choix qui a été fait par Dominique Vis, c'est lui qui est l'auteur en quelque sorte de cette recomposition, est toujours très bien fait, avec des enchaînements de tonalités parfaits, évidemment, et donc très émouvant, très à la fois austère. La première partie, c'est vraiment austère, mais d'une beauté, d'une belle austérité, on pourrait dire. Hein. Vraiment un moment même émouvant. Et puis la messe des batailles a un tout autre caractère, donc, puisque c'est elle qui illustre en fait le titre du programme, l'homme armé, l'armée à l'arme, avec un thème de l'homme armé, enfin dont l'origine remonte à un chant qui a soi-disant été écrit entre 1450 et 1463 sur un guerrier mort au combat. Voilà, et c'est ce thème qui est repris par des tas de compositeurs. Et là, cette messe des batailles, alors elle alterne des passages en chant a cappella, puis des passages où il n'y a que les instruments eux-mêmes, et puis des passages où les instruments et les voix sont mêlés, avec vraiment une variété d'expressions, d'affects, comme on disait à l'époque, impressionnant, en particulier pour les instruments, un très brillant tiento 12 du 6e ton sur la bataille de Morales, qui est d'un compositeur qui s'appelle Correa de Araujo, donc une pièce pour instrument seul, puis il y avait même une pièce pour orgue seul, et puis des pièces avec les voix seules et avec les voix habiles et différenciées des Jeannequins, donc de l'ensemble, avec là aussi des compositeurs variés, certains connus comme Palestrina par exemple, mais d'autres là aussi, Jean de Bournonville, j'avoue que j'ai découvert, et vraiment avec cette succès session de caractère très, très bien amené, très bien conçu. Ces parodies, comme donc il faut les appeler, étaient très, très courantes à l'époque. Et là, finalement, Dominique Vis les a très bien ressuscité, cette manière de monter des pièces diverses pour n'en faire que des pièces uniques. Et puis alors, l'ensemble du public a là aussi très applaudi ce concert. Du coup, il y a eu un bis de la même veine, le motet d'Apachem Domine du compositeur français qui s'appelle Jean Mouton, compositeur français de 1459 à sa naissance à 1522 à sa mort.
C'est exactement à peu près les mêmes dates que celles de Pierre Delarue.
Oui. Donc tous les compositeurs des séquences qui ont été jouées sont tous de la même époque.
Nous allons réécouter un petit extrait de ce programme, le Kyrie de la messe L'homme armé de Pierre Delarue, dans une version chantée par l'ensemble Clément Jeannequin. Le Kyrie de la messe L'homme armé de Pierre Delarue, chanté par l'ensemble Clément Jeannequin, qui était donc en concert avec les Sacboutiers le 12 mars à la basilique Saint-Sernin. Prochain concert des Arts Renaissants, le dernier de la saison, mardi 9 avril à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec le prestigieux quatuor Modigliani. Il nous reste un tout petit peu de temps dans cette première partie pour dire quelques mots sur la 100e cantate sans filet de l'ensemble baroque de Toulouse, qui a eu lieu le 3 mars, le dimanche 3 mars, à la Halle au Grain. Là aussi, devant une salle comble et enthousiaste, un beau moment que cet événement historique, Serge, 15 ans après le début de cette incroyable aventure musicale.
Et oui, qui a débuté en janvier 2007. Donc Michel Brun a eu l'idée de rendre public la répétition et l'exécution des 200 cantates, enfin c'est en tout cas ce qu'il souhaite faire, et là il est déjà arrivé à mi-parcours, ce qui est déjà quand même une performance.
Un exploit, oui.
Et donc il faut rappeler quand même que la devise pour ces cantates sans filet, c'est « ce n'est pas un concert ». Effectivement, ce n'est pas un concert, puisqu'on assiste d'abord à la répétition publique qui précède immédiatement le concert qui va suivre. Et cette répétition publique, c'est la seule, en fait, qui réunit musiciens et chanteurs, chacun ayant travaillé de son côté, évidemment. Alors là, on a droit, évidemment, à la fois aux indications du chef vis-à-vis de ses musiciens, et également quelques anecdotes et quelques explications qu'il donne au cours de cette répétition. Et puis, au final, c'est l'ensemble de l'assistance qui est invité à chanter le choral final, avec des plaisirs et des bonheurs divers, évidemment. La partition est distribuée, donc ceux qui lisent la musique, bon, ils s'en sortent peut-être à peu près. Les autres, bon, ils font ce qu'ils peuvent. Bon.
À l'oreille,
c'est un plaisir comme ça. Donc, ça a été intéressant, avec quatre solistes qu'il faut quand même nommer.
Ah oui.
Excellent, la soprano Clémence Garcia, qui est une magnifique...
Que Jean-Marc Andrieux connaît bien.
Soprano, grande chanteuse. Et avec l'alto Paula Cossin, le ténor Arthur Perrault, et la basse Aurélien Pernet, qui donc était là. Et puis je voudrais aussi dire les belles performances de deux instrumentistes solistes, à la flûte traversière Alice Szymanski et au hautbois d'amour Xavier Miquel, qui ont deux passages où ils sont solistes donc dans cette cantate. Un beau moment en concert de famille en quelque sorte.
Et bien pour terminer cette première partie d'émission, nous allons réécouter le premier chœur de la cantate BWV 100 de Jean-Sébastien Bach, Was Gott tut, das ist wohlgetan, dans une version de la Netherlands Bach Society. Was Gott tut, das ist wohlgetan, premier chœur de la cantate BWV 100 de Jean-Sébastien Bach dans une version de la Netherlands Bach Society, extrait avec lequel nous concluons cette première partie d'émission. Petite virgule musicale maintenant, et l'on poursuit en compagnie de Serge Chouzy et de notre invité d'honneur Jean-Marc Andrieux pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
À nous Jean-Marc Andrieux pour ce concert que vous allez donc donner avec les Passions de Montauban samedi prochain le 23 mars à l'église Saint-Exupère de Toulouse. J'ai rappelé en début d'émission que vous êtes le fondateur et le directeur artistique de l'orchestre baroque de Montauban. plus connu sous le nom Les Passions. Ça, je pense que la plupart des mélomanes de notre région le savent. Peut-être qu'on ne sait pas assez, en revanche, on l'oublie parfois en tout cas, vous êtes aussi un excellent flûtiste à bec, et ce concert va le rappeler très opportunément, puisque vous allez y officier en tant que flûtiste pour la quasi-totalité des œuvres au programme, un concert qui commence à l'horaire un peu inhabituel de 18h30. Est-ce qu'on trouve beaucoup d'œuvres composées pour la flûte à bec à l'époque baroque? Est-ce que c'était un instrument très utilisé lors de cette période?
La réponse est oui.
Oui. Mais encore.
Je vais vous en citer. Il y a deux concertos brandebourgeois, le deuxième et le quatrième déjà. Une douzaine de cantates de Bach dans lesquelles il utilise la flûte à bec. La plus connue, c'est la 106, l'Actus Tragicus. Cantate funèbre. La flûte à bec avait aussi ce rôle-là d'illustrer un peu le sommeil ou le calme de la mort. Voilà. On la retrouve chez Lully d'ailleurs aussi, la flûte à bec, dans ce rôle-là. Des concertos de Telemann, et des sonates, beaucoup d'œuvres de Telemann, des œuvres de musique de chambre, des cantates aussi dans lesquelles il utilise la flûte à bec, des concertos de Vivaldi aussi, des sonates de Scarlatti. La liste est très longue, il y a beaucoup d'œuvres donc, et heureusement, hein, puisque c'est le plus bel instrument du monde, vous le savez.
Je le sais d'autant plus après tout ce que vous venez de nous dire. C'est incontestable,
d'accord avec moi.
La flûte à bec, c'est le plus bel instrument du monde.
La preuve, c'est qu'on en joue au collège, c'était un bon choix.
Finalement. Oui.
Non, bref, n'y revenons pas.
restons amis. Alors, s'il y a tant d'œuvres que ça, évidemment, c'est pas simple de faire un choix lorsqu'on veut faire un concert où il va y avoir des œuvres où la flûte à bec a un peu le beau rôle. Alors là, elle l'a dans presque toutes les œuvres. Il y a une œuvre qui est composée pour le violoncelle, on va en parler. Donc, quel est le programme que vous avez retenu samedi à Saint-Exupéry?
Alors, bien sûr, la flûte à bec est accompagnée, je ne serai pas le seul soliste. Si vous voulez, le programme, c'est un programme de musique de chambre qui est basé sur quatre instruments solistes. La flûte à bec, le hautbois, le violon et le basson. Voilà, et ces quatre instruments-là seront accompagnés, évidemment, comme toujours, par la basse continue, violoncelle et clavecin. On est six. Et donc, c'est un dialogue équilibré. Le violoncelle accompagne tout le temps, sauf pour un concerto de bois mortier. On en reparlera peut-être. Et puis, le clavecin accompagne tout le temps, sauf pour cette pièce de Jean-Chrétien Bach qui est écrite pour clavecin solo. Donc, tout le monde aura du travail au cours de ce concert concertant.
Alors, vous avez cité deux compositeurs parmi les quatre qui vont être joués samedi. Donc, Boismortier et Jean-Chrétien Bach. Il y a aussi Telemann et Vivaldi. Deux œuvres de Vivaldi, deux concertos en sol mineur.
Et oui, ce sont deux concertos en sol mineur, c'est un peu le hasard, mais donc ils sont pour cette formation-là, on appelle ça des concertos de chambre, un groupe de quatre solistes avec la basse continue, comme j'ai dit, donc flûte à bec, violon, hautbois et basson, qui vont tour à tour concerter, comme c'est le rôle, pour ces deux concertos très différents.
Donc il y a le RV 105 et le RV 107, a priori composés à peu près à la même période, voire à quelques semaines près sans doute, parce qu'ils produisaient beaucoup Vivaldi.
Oui.
Alors on va d'abord parler de Telemann. Telemann, un concerto en la mineur, lui.
Alors c'est un quadro, je ne sais pas comment, sur la partition d'origine, je crois qu'il a marqué quadro. Là aussi c'est une pièce écrite pour trois solistes, cette fois-ci, et la basse continue. Donc les trois solistes, c'est la flûte à bec, le violon et le hautbois. Et puis la basse continue, le basson va se joindre à ses camarades de violoncelle et clavecin pour assurer l'accompagnement. Donc cette pièce de Telemann, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. C'est autour de cette pièce-là que j'adore, que j'ai constitué ce programme, en fait.
Ah d'accord, donc vous êtes parti du concerto en la mineur de Telemann. Avez ajouté autour, notamment, le quintet en ré. Alors là, c'est Jean-Chrétien Bach, un des rejetons de la famille Bach, pas le
et
plus
oui.
connu.
Oui, oui, c'est
mais
le plus jeune.
Mais un des plus talentueux. Alors c'est le 18e ouais. sur les 20 enfants qu'a eu Jean-Sébastien Bach.
Oui, sachant que, bon, sur les 20, vous le savez,
il y en a que 9 qui ont survécu.
Voilà, il n'y en a que 9. Et puis Bach a eu quand même 4 fils qui ont été des compositeurs, des musiciens exceptionnels quand même.
Qu'on aurait qualifié de génie s'il n'avait pas eu un père qui s'appelait Jean-Sébastien Bach, sans doute.
Voilà, ben oui, mais bon, je pense qu'on peut quand même dire génie aussi, génie intermédiaire entre Bach et Mozart, finalement, comme Carl Philippe, par exemple, qui a été le professeur de Mozart. Et donc ce Jean Chrétien, c'est, comme vous l'avez dit, le plus jeune de tous et il a fait sa carrière à Londres. On lui doit d'ailleurs ce quintet. Alors à l'origine, c'est écrit pour la flûte traversière, mais je la joue à la flûte avec, comme à l'époque on pouvait échanger un peu ces deux instruments sans problème. Mais surtout, c'est le clavecin qui a un rôle de soliste à ce moment-là, et il a des interventions solistes, sachant que Jean Chrétien, comme ses frères, maîtrisait parfaitement le clavecin, évidemment. Voilà, donc c'est une œuvre plus tardive et vraiment très attachante aussi, qui témoigne de le glissement du style baroque vers le rococo et le début du classicisme.
C'est Johann Christian Bach ou Jean Chrétien Bach, il faut choisir.
Hein. Bon, on va dire Jean Chrétien.
Celui qu'on appelait le Bach de Londres, donc, puisqu'il a fait l'essentiel de sa carrière là-bas. On en arrive à Boismortier. Alors, il faut que vous nous présentiez peut-être encore un peu plus que les autres, lui, parce que ce n'est pas le plus connu de tous, même s'il a un nom assez facile à retenir, que je trouve très joli. Complet, c'est Joseph Baudin de Boismortier.
Et oui, là, c'est le représentant de la musique française dans ce programme. J'ai voulu absolument le mettre en valeur parce qu'il n'est pas assez connu et vraiment, il est digne d'intérêt. On va jouer deux œuvres de lui, un concerto, là aussi, écrit pour des groupes de solistes, la flûte avec le violon d'un côté et le hautbois et le basson de l'autre. Il y aura une espèce de jeu de ping-pong en double, vous voyez, en quelque sorte. Et puis après, la deuxième œuvre qu'on va jouer de lui, c'est un concerto pour violoncelle qui n'est autre que le premier concerto qui a été écrit en France pour le violoncelle, qui date du début du XVIIIe siècle.
Parce qu'à l'époque, le violoncelle était considéré seulement comme une sorte d'instrument d'accompagnement pour la basse continue.
C'était un accompagnement,
mais pas en soliste.
Et puis c'était un intrus aussi, parce qu'en France, à cette époque-là, c'était la viole de gamme, qui était l'instrument roi, c'est le cas de le dire, et qui a été supplanté après au XVIIIe siècle par le violoncelle, qui était lui, italien d'origine. Mais finalement, on a le témoignage de la même mise, si on peut dire, du violoncelle sur la pratique musicale en France au début du XVIIIe.
Boismortier, contemporain de Rameau, hein, né en 1689, mort en 1755, qui avait, dit-on, alors je ne sais pas si c'est une légende, il paraît qu'il était tellement distrait, ce monsieur, qu'il était incapable de diriger ses propres œuvres, il les faisait diriger par d'autres.
Ça, je ne savais pas, mais nous, on n'aura pas de chef, donc il n'y aura pas de problème. Mais en tout cas, sa musique est vraiment très, très, très intéressante. Et,
est-ce qu'elle est typiquement française
C'est un savant mélange entre France et Italie. À cette époque, vous savez qu'il y avait ces deux styles, mais lui, était assez habile, assez rusé, puis il écrivait beaucoup, beaucoup. On lui a d'ailleurs reproché d'écrire trop de musique et lui, il s'en défendait. Il disait, de toute façon, je gagne ma vie en écrivant de la musique. Je vois pas d'inconvénient tant qu'on m'en achète. Et c'est vraiment de la musique intéressante. Ce qu'on connaît de lui, que je vous conseille d'écouter, c'est Don Quichotte chez la Duchesse.
Ah oui, c'est
un petit opéra. Et c'est très, très,
très joli.
Très
bien.
Il a été donné par les passions, déjà.
Et on l'avait donné, oui. Dans les années 90, on s'était régalé, puis ça a été repris récemment par Hervé Niquet aussi.
Quels sont les musiciens qui vont se produire à vos côtés?
Alors donc, votre serviteur sera la flûte à bec et j'aurai avec moi mes comparses habituels qui sont de grands virtuoses, Flavio Losco au violon. Vous avez parlé de Xavier Miquel, qui est le hautboïste toulousain, donc qui fait partie évidemment de l'équipe. Au niveau donc au hautbois, au niveau du basson, c'est Nicolas André qui va officier au basson, à l'absence de notre ami Laurent Le Chenadec, qui est, je ne sais pas où il sera, mais il sera
Il est au four et au moulin, Laurent Le Chenadec.
Il sera au moulin et nous, on sera au four.
Voilà.
Et puis, nous avons Étienne Mangot au violoncelle, bien sûr, lui aussi est formidable. Et puis, au clavecin, c'est Yvan Garcia qui jouera de ce magnifique instrument.
Que des vieux complices, si on peut dire, non pas par l'âge, mais par l'ancienneté, avec les passions.
Tout à fait. Et puis, ce programme, on l'a déjà donné, combien, 5, 6, 7 fois, avec un succès phénoménal chaque fois.
Voilà, donc c'est à l'église Saint-Exupère, samedi 23 mars à 18h30. Je n'ai pas d'extrait d'enregistrement des Passions de Montauban jouant l'une des pièces au programme du concert de samedi, mais j'en ai un du concerto en fa majeur pour flûte à bec et cordes Tempesta di Mare de Vivaldi, qui donne une bonne idée de ce que vous allez entendre à l'église Saint-Exupère. Et c'est Jean-Marc Andrieux qui officie à la flûte à bec dans cette version. Thank you. concerto en fa majeur pour flûte à bec et cordes, Tempesta di Mare de Vivaldi, interprété par les Passions de Montauban, avec Jean-Marc Andrieux à la flûte à bec. Vous avez rendez-vous avec les mêmes pour des concertos baroques ce samedi 23 mars à 18h30 à l'église Saint-Exupère. Dernière chose, Jean-Marc, un petit mot sur le coffret Daphnis et Alcimadure que l'on peut se procurer sur le site web des Passions. Qu'est-ce qu'on y trouve, outre l'enregistrement bien sûr de votre version de l'opéra occitan de Bondonville?
Oui, c'est notre dernière reproduction, concert qu'on avait donné au Théâtre du Capitole. Et on y trouve une notice très 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 complète au niveau historique de Bernadette Lespinard, musicologue spécialiste du XVIIIe siècle. Je la remercie toujours quand je peux, parce qu'elle a fait un travail formidable et on comprend tout ce qui se passe à cette époque-là, très complexe d'ailleurs, de l'histoire de la musique en France.
Voilà, c'est un coffret magnifique, hein,
très
pour en témoigner tous les deux.
Ah, oui,
un coffret qui a
très
reçu toutes les grandes récompenses de toute la presse spécialisée. Voilà, merci à vous.
Donc on peut se procurer sur le site web des Passions, www.les-passions.fr. Serge, il nous reste un peu de temps, juste assez pour annoncer le concert de l'ensemble baroque de Toulouse, encore lui, vendredi 22 mars à 20h30 à l'église Saint-Pierre de Blagnac. Le programme est intitulé Vivaldi, Vivaldi en trombe et lumière.
Voilà, exactement, avec trois œuvres. Le Stabat Mater, d'abord, avec donc une contralto solo, en principe. Hein. Et puis, ensuite, un concerto, mais là pour flûte traversière, cette fois, et orchestre, le concerto Il Gardellino, c'est-à-dire le Chardonneret. Et puis, enfin, la Sinfonia al Santo Sepolcro, qui est une symphonie pour cordes, sans orgue ni clavecin, comme c'est indiqué dans les annonces de cette symphonia, avec deux mouvements. Donc voilà le concert qui sera donné le 22 mars à 20h30 à Blagnac, petite église.
Avec la mezzo-soprano Caroline Champy-Tursin en soliste, qu'on a l'habitude d'entendre dans la plupart des productions de l'ensemble baroque de Toulouse. Alors c'est un concert qui est donné dans le cadre de la saison hors les murs d'Audi-Sud. Et malheureusement, à ce que j'en sais à ce jour, il affiche complet. Alors bon, renseignez-vous tout de même, on ne sait jamais, parfois il y a des désistements. Oui. Mais bon, voilà, il est affiché complet. Il y a le site d'Audi-Sud si vous voulez tenter votre chance. Autre concert à annoncer, celui de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, les 25 et 26 mars à 20h30. À Saint-Pierre-des-Cuisines, c'est dans le cadre de leur concert mensuel. Vous savez, il y en a deux chaque mois à l'escale de Tournefeuille et deux à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et ce mois-ci, ils sont dédiés à Beethoven, mais on va y entendre aussi du Mozart, ce qui n'étonnera personne parce qu'on met souvent les deux en regard.
Oui, absolument. Alors, de Beethoven, une nouveauté à ma connaissance, la sonate à Kreutzer, donc de nouveau dont nous avons parlé au cours de l'émission, sonate pour violon et piano, mais là, dans une version pour cordes signée de Beethoven lui-même. Donc, ce sera intéressant à découvrir. Et puis ensuite, de Mozart, ce sera la symphonie concertante pour violon, alto et orchestre. Donc, une œuvre, elle, bien connue, une très belle œuvre, très, très chantante en quelque sorte, hein, donc, de Mozart. Donc, Beethoven et Mozart par l'Orchestre de Chambre de Toulouse.
Alors, il ne devait pas y avoir la symphonie numéro 5 en version quatuor à cordes? Ah, c'est qu'il y a eu un changement de programme alors, parce que c'était annoncé. Il y a peut-être eu un changement de programme, ou alors est-ce qu'elle y est, je ne sais pas. Ça avait été annoncé comme tel, en tout cas sur leur site. Peut-être qu'il y a eu un changement, je ne sais pas. Bon, moi j'ai une version de cette très célèbre, du très célèbre premier mouvement, Allegro con brio de la symphonie numéro 5 de Beethoven, dans une version pour cordes. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Thank you. Le premier mouvement Allegro con brio de la symphonie numéro 5 de Beethoven dans une version pour cordes. L'orchestre de chambre de Toulouse est donc en concert les lundis 25 et mardi 26 mars à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il y a également au programme des œuvres de Mozart. Renseignements et réservations sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Pour le concert des Passions de Montauban sous la direction de Jean-Marc Andrieux avec Jean-Marc Andrieux la flûte à bec, samedi 23 mars à 18h30 à l'église Saint-Exupère de Toulouse, vous est proposé un programme de concerto composé par Bois Mortier, Vivaldi, Jean Chrétien Bach et Telemann. Les réservations et la billetterie sont en ligne à l'adresse www.les-passions.fr. Et puis enfin, notez que l'Orchestre National du Capitole est également en concert le samedi 23 mars à 18h à la Halle au Grain. Jean-François Zigel y présente son programme Mon Beethoven à moi. Billetterie en ligne à l'adresse www.onct.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Serge Chosy et Jean-Marc Andrieux d'avoir été les brillants et très agréables invités de ce numéro. Merci aussi à Christophe Aubry qui l'a réalisé. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de votre fidélité à cette émission chaque mardi et mercredi. Excellente semaine musicale à tous. À bientôt.